Oui, quand elle a été déposée, elle avait atteint le million en effet de signatures. Elle continue à rassembler des signatures. La réponse de la Commission européenne a été de dire que ça n'était pas dans ses compétences de pouvoir interrompre les négociations, parce que ce que demandait la pétition, et ce que demande encore aujourd'hui la pétition, c'est l'interruption des négociations en tant que telles. Et là, la réponse juridique, si je puis dire, qui a été présentée, a été de dire que ça n'est pas dans les compétences de la Commission elle-même d'interrompre ces négociations. Ça relève de
ça relève
des chefs d'État et des
chefs d'État eux-mêmes.
Oui, et puis à ce moment-là, je dirais que la portée de cette pétition, elle est réelle comme pression, comme vigilance, même en tant que telle. Et on l'a vu sur les enjeux de... je n'ai pas parlé, et c'est un enjeu majeur, donc je pense que c'est l'occasion d'en parler, la question de l'ISDS, le règlement des litiges entre investisseurs et États. La pression qui a été exercée sur cet enjeu dans les débats publics a indéniablement fait avancer. C'est un débat qui a beaucoup avancé, notamment en un an, enfin tout au long de l'année dernière.
On parle même de mettre en place plutôt des tribunaux d'ordre public, hein, si j'ai bien compris.
Oui. Alors, il faut bien tenir compte du fait que actuellement les États membres de l'Union européenne, puisque c'était une compétence jusque récemment encore qui était dans les mains des États membres de l'Union européenne, ont signé plus de 1600 accords bilatéraux d'investissement dans lesquels il y a, pour la quasi-totalité, un mécanisme d'ISDS, je vais l'appeler comme ça pour faire court, et qui est appliqué aujourd'hui, qui sont des mécanismes variables selon les États membres. Donc il y a une véritable hétérogénéité en plus de ce qui existe dans les accords. Donc il y a déjà un enjeu pour la Commission européenne d'harmonisation de l'existant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et à l'occasion du TTIP, la légitimité de ces mécanismes, le fonctionnement, la portée, les zones d'ombre, enfin les imprécisions, on va dire, les imprécisions qu'il y a dans certaines définitions, la façon dont ils étaient définis aujourd'hui, la sélection des juges, il y a toute une série de questions qui ont surgi sur
la crainte, c'est quand même qu'une multinationale puisse faire ou défaire la loi d'un pays. Quand même, c'est pas rien.
Alors, les mécanismes d'ISDS en tant que tels ne peuvent pas contraindre un État membre. Enfin, dans l'accord qui a été signé avec le Canada, le mécanisme qui a été négocié par l'Union européenne précise d'entrée de jeu que le
donc on ne pourrait pas se retrouver dans le cas de l'Australie et de Philip Morris, donc qui avait condamné l'Australie.
Si.
Par rapport à ces paquets de cigarettes.
Si, tout à fait. Si. Non, il peut y avoir l'aboutissement d'une plainte. Un jugement peut tout à fait aboutir à la mise en cause la responsabilité d'un État et une pénalité lourde. Ce que je voulais dire, c'est que ce jugement ne peut pas contraindre un État, de fait, à faire marche arrière sur une réglementation. Mais ce que l'on craint...
Ça peut être dissuasif, quand même.
Ce que l'on craint, c'est une forme de gel réglementaire. Mm-hmm. C'est qu'implicitement, un État soit incité à faire marche arrière sur une réglementation. Et on voit bien que dans tous les derniers cas de plaintes qui ont été traitées, notamment chez un... Enfin, des plaintes qui ont été déposées notamment même dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne et des États membres qui sont arrivés en 2004 concernent des enjeux liés à l'environnement. Il y a beaucoup de dossiers qui concernent les enjeux énergétiques et de protection de l'environnement. Donc on voit que c'est un enjeu pour les années à venir qui est important. Alors sur cette question-là, depuis même l'accord de la CETA, la Commission européenne a continué à avancer, à pousser sa réflexion, à imposer un principe de transparence totale dans l'application des ISDS d'ores et déjà pour l'utilisation des mécanismes actuels. La réflexion est allée plus loin parce que les craintes manifestées, et c'est là où je reviens sur le principe de vigilance en tant que tel, les craintes qui ont été manifestées à la fois au sein du Parlement européen et dans les opinions publiques ont été fortes, donc ont exercé une pression forte. C'est aussi l'initiative franco-allemande qui a fait bouger les lignes, où la Sigmar Gabriel et Matthias Fekel ont fait une proposition conjointe de création d'une cour permanente d'investissement qui a été très largement reprise par Cecilia Malmström et qui maintenant, il y a un peu plus d'un mois, a proposé donc de créer un système alternatif, le principe d'une cour permanente d'investissement qui concernerait le TTIP, mais qui concernerait également l'ensemble des négociations menées par l'Union européenne, et avec l'ambition de promouvoir un système qui pourrait être un système, alors on va dire de manière plus réaliste, plurilatéral. C'est difficilement envisageable à l'heure actuelle d'imaginer un système multilatéral. En revanche, on pourrait imaginer que un certain nombre de pays qui, à l'heure actuelle, se sont déjà montrés également assez critiques vis-à-vis de ces mécanismes d'ISDS, je pense à l'Australie, évidemment, que vous citiez, puissent être intéressés par la création de ce type de cours. Il faut que le principe, maintenant, soit validé par le Conseil européen et le Parlement européen, et évidemment, en discuter avec les partenaires américains. On peut anticiper des résistances assez fortes, et donc c'est une question qui va pas être réglé, sur laquelle on n'attend pas une réponse lors du prochain cycle de négociations et qui sera pas traité vraisemblablement avant un moment. Enfin, qui peut. Mais on a une proposition et on a un projet alternatif intéressant et sur lesquels les parlementaires se sont prononcés de manière favorable. Les coûts étaient favorables.